qui est vraiment une espèce de, une sorte de diagonale de l'œuvre du Seigneur depuis sa venue sur la terre, sa mort sur la croix, sa glorification, sa résurrection, sa glorification, et puis ce qui est devant nous encore. Dernière strophe. Voyez, le lever de l'aurore est certain, l'air fraîchit, l'horizon se dore et lointain, sur les coteaux, voyez éclore le matin ce que nous attendons. Et puis ce que nous avons évoqué dans la prière, te servir, t'aimer, te connaître toujours mieux. Si on peut dire, c'est notre programme pour aujourd'hui. Et je voudrais un petit peu considérer quelques aspects de cela. Avec ce qui est de ce que nous attendons. Je voudrais lire dans les Thessaloniciens, le premier épître à Thessaloniciens, chapitre 1er, verset 2. Nous rendons toujours grâce à Dieu pour vous tous. Faisant mention de vous dans nos prières, nous souvenant sans cesse de votre œuvre de foi, de votre travail d'amour, de votre patience d'espérance de notre Seigneur Jésus-Christ, devant notre Dieu et Père, sachant, frères aimés de Dieu, votre élection. Car notre évangile n'est pas venu à vous en parole seulement, mais aussi en puissance et dans l'Esprit Saint et dans une grande plénitude d'assurance. Ainsi que vous savez quels nous avons été parmi vous pour l'amour de vous. Et vous êtes devenus nos imitateurs et ceux du Seigneur, ayant reçu la parole accompagnée de grandes tribulations, avec la joie de l'Esprit Saint. De sorte que vous êtes devenus des modèles pour tous ceux qui croient dans la Macédoine et dans l'Achaïe. Car la parole du Seigneur a retenti de chez vous, non seulement dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais en tout lieu, votre foi envers Dieu s'est répandue, de sorte que nous n'avons pas besoin d'en rien dire. Car eux-mêmes racontent de nous quelle entrée nous avons eue auprès de vous et comment vous vous êtes tournés des idoles vers Dieu pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité d'entre les morts, Jésus qui nous délivre de la colère qui vient. Jusque-là, pour le moment. Et j'avais commencé par ce dernier verset, ces deux derniers versets. Ce témoignage des Thessaloniciens, de la manière dont ils avaient reçu l'Évangile, où d'autres qui avaient entendu cela rendaient témoignage, comment, fin du verset 8, vous vous êtes tournés des idoles vers Dieu pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité d'entre les morts, Jésus, qui nous délivre de la colère qui vient. Concernant les Thessaloniciens eux-mêmes, on a là un chemin en trois étapes. Trois étapes, le mot étape n'est peut-être pas le meilleur, mais voilà, il y a un premier moment où vous vous êtes tournés des idoles vers Dieu. Tournés des idoles vers Dieu. Il nous est parlé de la conversion. Je ne sais pas si ça se fait encore aujourd'hui. Les gens qui font du ski pourront me le dire, mais quand j'ai appris à faire du ski, une des premières choses qu'on apprenait, c'est à faire ce qu'on appelait la conversion. On est debout sur ses skis et on doit apprendre à faire demi-tour en manipulant les skis pour faire demi-tour sur place. Alors ça peut paraître très bête, c'est pas si simple que ça quand on n'a jamais été sur des skis. C'est très pratique quand on n'est pas bon skieur et qu'on se retrouve dans une pente très raide, parce qu'on arrive toujours à faire la conversion, quand on sait la faire. Mais la conversion, c'est vraiment ça. On fait un demi-tour complet. On était dans une direction, et par ces mouvements qu'on fait avec les deux jambes successivement, on ramène les skis parallèles à ce qu'ils étaient avant, mais dans l'autre direction. On tourne le dos au chemin dans lequel on était vers lequel on était dirigé, pour se retrouver dans le chemin inverse, la conversion. Tourner des idoles vers le Dieu vivant vers Dieu. Tourner des idoles vers Dieu, première étape. Et du coup, la marche change complètement de direction. Elle change aussi d'objectif. Et puis, elle change aussi de manière de marcher. Si je reprends l'image du ski, si je me retrouve au bord d'un précipice, en ayant avancé, en ayant marché, ben voilà, si je continue, je vais tomber dans le précipice. Je fais ma conversion, je repars dans l'autre sens, de là où je suis venu, ou un peu différemment, ben je retrouve un chemin où je peux marcher vers un objectif plus sûr. Demi-tour complet. Deuxième étape, pour servir le Dieu vivant et vrai. La note nous dit « servir, servir comme esclave ». C'est un mot très fort. Et puis, quelque chose de plus, la première étape, c'était se tourner des idoles vers Dieu. Tout court, rien de plus. La deuxième étape, servir le Dieu vivant et vrai. Au moment de la conversion, nous avons compris, reçu suffisamment pour reconnaître que ce que nous abandonnons est du mal, un chemin qui mène à la perdition, un chemin où il n'y a pas de réponse aux aspirations de nos cœurs, à nos questions, voilà, où les choses s'enchaînent en allant toujours plus mal. On sait suffisamment aussi pour se tourner vers Dieu, pour savoir qu'en lui, il y a autre chose. Mais on ne le connaît pas encore. On ne connaît pas beaucoup. On connaît ce qu'il faut pour le reconnaître, pour se soumettre à lui, pour l'accepter. La deuxième étape, servir le Dieu vivant et vrai. On est entré, on entre, on avance dans une connaissance de ce qu'il est. Dieu lumière, Dieu amour, grâce, vérité. Dieu tout-puissant, créateur, révélé en Jésus. Jésus, venu accomplir l'œuvre de la rédemption, mort à ma place, à notre place, pour notre salut personnel, mort pour le péché, en jugement pour le péché, pour cette vie nouvelle en lui. Le Dieu vivant est vrai. Servir le Dieu vivant est vrai. Et puis troisième étape, qui n'est au fond pas encore vraiment une étape, qui est plus un état d'esprit, si on peut dire, un état intérieur, attendre des cieux. Attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité d'entre les morts, Jésus. Et la fin de la phrase, qui nous délivre de la colère qui vient, en quelque sorte, elle reboucle la boucle. C'est bien cela qui nous a fait nous tourner des idoles vers Dieu. C'est qu'on a réalisé qu'il y avait un chemin qui nous amenait à la colère qui vient, et qu'il y a une issue, qu'il y a un moyen d'échapper, d'être délivré de cette colère qui vient. Ce demi-tour, le moteur de ce demi-tour, l'énergie de ce demi-tour, c'est bien la prise de conscience de ce jugement à venir et de ce moyen de délivrance donné par Dieu. Alors, servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux son Fils, ce service, c'est un service qui a un but, le Seigneur, servir Dieu, et en filigrane, si je peux dire, à un deuxième but, la réalisation d'une promesse. La réalisation de cette promesse. Cette lumière du matin qu'on perçoit et on attend qu'elle se réalise, que le plein jour vienne. Et que le plein jour vienne avec la venue du Seigneur. Mais notre à faire, si on peut dire aujourd'hui, c'est l'étape du milieu. Servir le Dieu vivant et vrai. Et c'est quelque chose pour laquelle nous avons besoin de tous les encouragements du Seigneur pour cette marche, Il y a beaucoup de dangers. Il y a toutes les ressources face au danger. Un danger commun, c'est de s'endormir. Un autre danger voisin, c'est de baisser les bras. Un autre danger, et j'y pense un peu, je pense que c'est un danger de tous les temps, mais il y a peut-être des temps où il est plus marqué, c'est d'avoir les cœurs concentrés sur cette attente du retour du Seigneur. On entend beaucoup cette phrase, tout nous montre que la venue du Seigneur est proche. Est-ce que cette phrase est-elle vraiment spirituelle? Je l'ai lue il y a quelque temps déjà, dans une lettre de notre frère Darby, des années 60, alors qu'il était en voyage aux États-Unis. Je ne sais pas si c'était juste avant, à la veille, ou pendant, ou après. En tout cas, il y avait les événements en rapport avec la guerre de sécession. Et à voir ce qui se passait là-bas, il a eu cette expression-là aussi. Ben, rien ne montrait du tout que pour lui, le retour du Seigneur était proche. Et on entend beaucoup cette phrase. Et je voudrais, en rapport avec ça, on reviendra à l'Épître aux Thessaloniciens après, je voudrais juste lire dans Marc quelques passages que nous connaissons, mais nous avons besoin de nous en rappeler toujours. Matthieu le rapporte aussi. Marc 13, où le Seigneur répond à des questions des disciples. Après, au début du chapitre, les disciples lui ont montré le temple. On peut lire les quelques premiers versets. Comme il sortait du temple, un de ses disciples lui dit « Maître, regarde quelle pierre et quel bâtiment. » Et Jésus répondant lui dit « Tu vois ces grands bâtiments, il ne sera point laissé pierre sur pierre qui ne soit jeté bas. » Et comme il était assis sur la montagne des Oliviers vis-à-vis du temple, Pierre et Jacques et Jean et André l'interrogèrent en particulier, « Dis-nous, quand ces choses auront lieu et quel sera le signe quand toutes ces choses devront s'accomplir ?» Et donc, la suite du chapitre, le Seigneur répond à cette question. Et je reprends la question, « Dis-nous, quand ces choses auront lieu et quels seront les signes quand toutes ces choses devront s'accomplir ?» Le Seigneur ne répond pas, ou il répond indirectement à la première partie de la question. Il répond essentiellement à la deuxième partie. Quel sera le signe quand toutes ces choses devront s'accomplir? Et il passe en revue un certain nombre de signes qui sont des signes qu'il faut savoir lire. Dans Luc, je crois que c'est, que pour le passage, le récit parallèle de ce passage, il y a cette une parenthèse, que celui qui lit comprenne, à propos d'une phrase, de quelque chose que dit le Seigneur. Que celui qui lit comprenne. Ce n'est pas intuitif, ce n'est pas évident pour chacun de comprendre ces signes, comment les appliquer. Par contre, quant à la première partie de la question, verset 32, « Quant à ce jour-là, ou à l'heure, personne n'en a connaissance. » Pas même les anges qui sont dans le ciel, ni même le Fils, mais le Père. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez pas quand ce temps sera. Voilà ce que le Seigneur nous dit sur le moment. Et c'est remarquable que les anges ne sachent pas, on le comprend, que nous ne savions pas, il ne nous l'a pas dit, il n'a pas cru bon de nous le dire. Que les anges ne sachent pas, on peut le comprendre, mais il nous dit, ni même le Fils, mais le Père. C'est quelque chose d'un peu difficile à saisir et qui nous place devant ce mystère de la Trinité, Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit. Le Père, qui est Dieu, Dieu le Père, le Fils qui est Dieu, Dieu le Fils, le Saint-Esprit qui est Dieu, Dieu le Saint-Esprit. Et là, en tant que Fils, le Seigneur, dans sa position de Fils, ne sait pas. En tant que Dieu, bien sûr, il sait, dans sa dans sa position de Dieu, si je peux dire ça comme ça, les mots sont limités, mais en tant que fils, dans sa position de fils soumis au Père, il ne sait pas. Il n'y a que le Père qui sait. Et la conclusion de cela, ben voilà, vous ne savez pas l'heure. Prenez garde, veillez et priez. Voilà ce qu'il en est pour nous par rapport au temps, au moment. Et on revient aux Thessaloniciens. C'est ce qu'on retrouve au fond dans, si je peux dire, le mouvement, la dynamique de ces versets qu'on a lus de la fin du chapitre 1er. Vous vous êtes tournés des idoles vers Dieu. Il y a un mouvement pour servir comme esclave, c'est-à-dire une disponibilité, une écoute pour savoir ce qu'il faut faire, une connaissance de la pensée du maître pour la faire. Il y a l'action « faire » dans le mot « servir ». Et pour attendre, c'est plus un côté passif, mais c'est un côté d'une vigilance. On attend quelque chose qu'on sait qui va arriver, on attend. Et alors là, je voudrais aussi prendre une petite image, un peu particulière pour les enfants, pour les plus jeunes. Il y a plusieurs manières d'attendre. Quand vous êtes à l'école, dans l'année, au mois de février, et voilà, il y a des projets, on parle peut-être à la maison des projets pour les vacances d'été, et puis il y a quelque chose qui vous plaît beaucoup de ce qui est prévu de faire pendant l'été. Alors vous attendez l'été, les vacances d'été, mais en février c'est encore bien loin, quoi. Alors on attend, il y a des moments où on compte les jours, ou les mois, ou les semaines, et puis il y a des moments où ça s'estompe de nouveau, et on sait qu'en été, oui, et puis il y a autre chose qui prend le dessus au moment même, et on n'y pense plus. Et c'est toujours présent, mais on l'oublie. Et puis, à des moments, ça revient de nouveau, et on attend, et on sait, il n'y a plus que tant et tant de semaines de classe. Puis le temps passe, plus que deux semaines, plus qu'une semaine. Voilà. On a une date, un moment. On ne sait pas exactement quel jour on va partir, mais on sait qu'on va partir faire ceci ou cela, et on attend ce moment. Le moment de partir arrive et il y a le train à prendre, par exemple. Mais le train, il est à une certaine heure. Et il faut se préparer pour aller prendre le train à cette heure-là. Ce jour, à cette heure. Donc, il y a un compte à rebours, des affaires à préparer pour que, le moment venu, on soit à l'heure, à la gare, pour prendre le train, qui vient peut-être d'ailleurs, c'est peut-être pas le point de départ. Donc, il faut, sur le quai de la gare, attendre le train qui arrive. Et puis là, il y a le haut-parleur qui annonce que le train a du retard. Alors, il faut encore attendre un peu. Mais à un moment donné, paf, on sait qu'il va être là, on le voit venir, il arrive. Ben voilà deux images de l'attente qui ne sont pas du tout, au fond, l'attente que nous avons du Seigneur. Si on tourne la page plus loin, on y reviendra en arrière peut-être après, quand il est... Non, on tourne la page en arrière, c'est dans 1 Corinthiens 15, quand il nous est parlé de la venue du Seigneur, il y a un petit mot, il y a une expression qui a tout son sens, qui a toute son importance. 1 Corinthiens 15, verset 51. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne nous endormirons pas tous, mais nous serons tous changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, car la trompette sonnera, et les morts seront ressuscités incorruptibles, et nous, nous serons changés. Un instant, un clin d'œil. Voilà la vitesse à laquelle ces événements se passeront. Qui peut prévoir un clin d'œil? Qui peut se préparer pour le clin d'œil qui va venir, on ne sait pas quand? Si je peux dire comme ça, c'est quelque chose qui n'est pas en notre portée. Donc se attendre, si on revient aux Thessaloniciens, attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité d'entre les morts, Jésus qui nous délivre de la colère qui vient, attendre des cieux son Fils, c'est quelque chose de sous-jacent de tout moment du service. Servir le Dieu vivant et vrai. C'est au fond, il y avait un mot qui m'était venu à l'esprit, qui m'a échappé, c'est un état d'esprit, voilà. C'est notre état d'esprit. Nous faisons le service dans cet état d'esprit que nous servons en attendant. Le but n'est pas de servir. Le but, c'est bien le Seigneur. Alors, dans un sens, le but, c'est aussi le service. Si le Seigneur nous confie un service, nous avons à marcher en conséquence pour le faire. Mais le but de tous les chrétiens, le but commun à tout le monde, c'est bien ce moment où nous serons avec le Seigneur. Et donc le service est marqué par cette attente qui est là, permanente, de façon sous-jacente. Et alors si je reviens au début du chapitre, quand Paul dit qu'il faisait mention des Thessaloniciens dans ses prières, nous souvenons sans cesse de votre œuvre de foi, de votre travail d'amour, de votre patience d'espérance de notre Seigneur Jésus-Christ. On a là, au fond, les éléments de base de ce service. La foi qui agit, l'amour qui travaille, l'espérance constante qui ne se lasse pas, qui est patiente, qui sait qu'il faut attendre et qui attend. Votre œuvre de foi, votre travail d'amour, votre patience d'espérance de notre Seigneur Jésus-Christ devant notre Dieu et Père. Tout cela dans un éclairage qui est déterminé par notre Seigneur Jésus-Christ devant notre Dieu et Père. Et la fin du verset 4, sachant frères, aimés de Dieu, votre élection. Sachant, vous rappelant toujours que vous avez été élus. Dieu vous a choisi. Vous êtes entre ses mains. Vous n'êtes pas tombé par accident dans la situation où vous êtes. Il y a ce pas que vous avez fait quand vous vous êtes tourné des idoles vers le Dieu vivant et vrai. Et il y a, avant cela, ce pas de Dieu vers vous pour vous appeler, pour vous choisir, pour vous élire une élection, pour vous prendre à lui. Alors si on regarde plus loin dans cette même épître, la venue du Seigneur est mentionnée à plusieurs reprises. On ne va pas les passer en revue, ce n'est pas vraiment là le sujet, mais c'est sous-jacent dans toute l'épître. Au chapitre 4, « Au reste donc, frères, nous vous prions et nous vous exhortons par le Seigneur Jésus, pour que comme vous avez reçu de nous de quelle manière il faut que vous marchiez et plaisiez à Dieu, comme aussi vous marchez, vous y abondiez de plus en plus. Car vous savez quel commandement nous vous avons donné par le Seigneur Jésus, car c'est ici la volonté de Dieu, votre sainteté, que vous vous absteniez de la fornication, que chacun de vous sache posséder son propre vase en sainteté et en honneur, non dans la passion de la convoitise, comme font les nations aussi qui ne connaissent pas Dieu, que personne ne circonvienne son frère ni ne lui fasse tort dans l'affaire, parce que le Seigneur est vengeur de toutes ces choses, comme aussi nous vous l'avons dit précédemment et affirmé. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais dans la sainteté. C'est pourquoi celui qui méprise ne méprise pas l'homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Esprit Saint. Or, quant à l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin que vous en écrive, car vous-même, vous êtes enseignés de Dieu à vous aimer l'un l'autre. Car aussi, c'est ce que vous faites à l'égard de tous les frères qui sont dans toute la Macédoine. Mais nous vous y exhortons, frères, à y abonder de plus en plus, et à vous appliquer à vivre paisiblement, à faire vos propres affaires et à travailler de vos propres mains, ainsi que nous vous l'avons ordonné, afin que vous marchiez honorablement envers ceux de dehors et que vous n'ayez besoin de personne. Je ne vais pas m'arrêter dans le détail sur ce qu'on vient de lire. Il y a le premier paragraphe, la deuxième partie du premier paragraphe, et vraisemblablement très en rapport avec ce qu'était leur vie, la vie des Thessaloniciens, du temps où ils étaient tournés vers les idoles, et où il y avait là des choses auxquelles ils devaient particulièrement veiller, qui étaient une marche différente, qui était nouvelle pour eux, et où il y avait des dangers particuliers, autant à cause de leur environnement qu'à cause de ce qu'eux-mêmes avaient pratiqué par le passé. Mais ce que je voudrais relever, c'est cette expression qui arrive à la fin du verset 4, « que vous y abondiez de plus en plus ». Et puis elle revient de nouveau au verset 10 à la fin, à vous, « nous vous exhortons, frères, à y abonder de plus en plus ». Alors de quoi il s'agit? Au début du verset, au chapitre 4, vous avez reçu de nous de quelle manière il faut que vous marchiez et plaisiez à Dieu, comme aussi vous marchez. Donc il y a des choses générales qui ne sont pas détaillées à cet endroit-là. Les enseignements que Paul leur a faits sur ce qui est bon aux yeux de Dieu, sur ce que sont, pour reprendre l'expression de l'Épître aux Galates, le fruit de l'Esprit. Et il peut constater, comme aussi vous marchez. C'est des choses que vous réalisez. C'est un sujet de joie pour Paul. Mais en même temps, il voit plus loin. Vous y marchez, mais maintenant il faut aller plus loin, que vous y abondiez de plus en plus. Il y a des choses à affermir, des choses à creuser, des choses à tenir ferme, à ne pas lâcher. Abonder dans ces choses-là. Et en particulier, alors dans l'autre paragraphe, il nous parle de l'amour fraternel. C'est beau ce qu'il peut y dire là. Quand on lit ces choses, on se dit, mais quelque part, on aurait beaucoup à apprendre de ces Thessaloniciens. Quant à l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin que je vous en écrive. Car vous-même, vous êtes enseignés de Dieu à vous aimer l'un l'autre. Car aussi, c'est ce que vous faites à l'égard de tous les frères qui sont dans la Macédoine. Mais voilà. C'est bien, mais attention, il faut y abonder. Nous vous exhortons, frères, à y abonder de plus en plus. Le réaliser, ce n'est pas gagné pour toujours. Il faut y abonder pour tenir ferme, pour ne pas lâcher. Nous avons une propension terrible à réaliser quelque chose et quand nous l'avons réalisé, nous le laissons tomber. Nous l'oublions. Y abonder. Alors, le paragraphe suivant nous est plus très familier, c'est peut-être la partie de cette épître que nous connaissons le mieux. Nous ne voulons pas que vous soyez dans l'ignorance à l'égard de ceux qui dorment. Ou justement, là, il y a un point où les Thessaloniciens avaient besoin d'être éclairés. Le retour du Seigneur, oui, mais ceux qui sont morts, ceux qui dorment, ceux qui sont déjà délogés. Mais qu'est-ce qui viendra pour eux? C'est fini pour eux. Ils ne seront plus là quand le Seigneur va venir. Et Paul peut leur révéler que, voilà, les morts en Christ ressusciteront premièrement. La résurrection, ce n'est pas juste la résurrection du Seigneur. C'est la résurrection du Seigneur, garant de la résurrection de tous les croyants. Avec cette voix d'archange, cette trompette, à ce cri de commandement, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Puis nous les vivants qui demeurons, nous serons ravis ensemble, avec eux, dans les nuées, à la rencontre du Seigneur en l'air. Et la conclusion de cette parenthèse, c'est « consolez-vous, encouragez-vous donc l'un l'autre par ces paroles ». Et là aussi, maintenant, Paul parle des temps et des saisons. Et ce n'est pas le clin d'œil qui est utilisé comme expression, c'est une autre expression. Verset chapitre 5, verset 2, « Car vous savez vous-même parfaitement que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. » Un voleur ne prend pas rendez-vous pour cambrioler la maison. Il veille quand la maison n'est pas surveillée, quand elle est vide, quand une fenêtre a été laissée ouverte par accident, et il profite de l'occasion. Il ne prévient pas. Alors, la conclusion, c'est la conséquence à en tirer, verset 6. Ainsi donc, ne dormons pas comme les autres, mais veillons, soyons sobres, car ceux qui dorment, il faudrait lire à partir du verset 4, Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, en sorte que le jour vous surprenne comme un voleur. Car vous êtes tous des fils de la lumière et des fils du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Ainsi donc, ne dormons pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit. Ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, revêtant la cuirasse de la foi et de l'amour, et pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi exhortez-vous l'un l'autre et édifiez-vous l'un l'autre, chacun en particulier, comme aussi vous le faites. Vous n'êtes pas dans les ténèbres. Vous êtes fils de la lumière. Vous êtes tous des fils de la lumière. Tous les croyants sont fils de la lumière. Tous les enfants de Dieu sont fils de la lumière, fils du jour. Et alors, la conséquence de ça, c'est ne dormons pas. Alors, il faut noter que le mot dormir dans ces passages a un double sens. Ceux qui dorment, du chapitre 4, verset 13, ce sont ceux qui se sont endormis dans le Seigneur. C'est ceux qui sont morts quant à leur corps terrestre. Alors que là, ne dormons pas, c'est notre vigilance. C'est être éveillé pour servir le Seigneur, servir le Dieu vivant en attendant son Fils. Dormir là, c'est débrayer de ce service, et continuer sur l'élan qu'on a jusqu'à un moment où on s'arrête. Alors, ne dormons pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Ce mot d'être sobre revient à plusieurs reprises. Qu'est-ce que ça veut dire, la sobriété? C'est tout simplement une mesure équilibrée en toute chose. C'est une vigilance à tout ce qui est un excès. C'est une vigilance par rapport à ce qui est profitable et utile, et ce qui est inutile, voire peut être néfaste. Ça rejoint un peu le mot tempérance qu'on a dans Pierre, dans l'épître, la deuxième épître de Pierre, dans des traductions anglaises, est appelé self-control. Le contrôle de soi. Alors le self-control, la notion de self-control, c'est très humain. C'est l'homme qui pense pouvoir se contrôler. Là, cette sobriété, c'est une sobriété qui est liée à la dépendance. C'est une sobriété qui est liée à un dialogue avec le Seigneur, qui nous donne la juste mesure, pas après pas. Une juste mesure que nous n'avons pas forcément par nous-mêmes, et que nous n'avons de toute façon pas d'une manière absolue. Ne dormons pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Soyons sobres, verset 8, revêtant la cuirasse de la foi et de l'amour, et pour casque l'espérance du salut. Au début de l'épître, il nous parlait de votre œuvre de foi, de votre travail d'amour, de votre patience d'espérance. Là, on a des caractères différents qui sont associés à ces trois mots de foi, amour, espérance. On a cette idée du combat qui est plus détaillée dans l'épître aux Éphésiens. La cuirasse de la foi et de l'amour est pour casque l'espérance du salut. On est entièrement dans ces armes qui sont premièrement défensives, pour nous protéger. C'est pourquoi exhortez-vous l'un l'autre, édifiez-vous l'un l'autre, chacun en particulier, comme aussi vous le faites. À noter le l'un l'autre qui nous est donné là. Exhortez-vous l'un l'autre, édifiez-vous l'un l'autre. Nous avons besoin chacun de nos frères, de nos sœurs. Nous avons chacun besoin et nous sommes utiles à nos frères et à nos sœurs, chacun. C'est des choses qui ne sont pas à sens unique. Il n'y en a pas un qui est appelé à exhorter les autres et qui n'aurait pas besoin d'exhortation, ou à édifier et qui n'auraient pas besoin d'édification. Non, c'est exhortez-vous l'un l'autre, édifiez-vous l'un l'autre. L'épître se termine avec des mises en garde, des encouragements très courts, très précis, qui ont un côté, un certain côté un peu percutant, mais qui en même temps ont une grande qualité. Si on prend à partir du verset 16, « Réjouissez-vous toujours, priez sans cesse. » En toute chose, rendez grâce, car telle est la volonté de Dieu dans le Christ Jésus à votre égard. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais éprouvez toute chose, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute forme de mal. C'est quelque chose qu'on peut très facilement apprendre par cœur. Et chaque phrase est tout un programme. Chaque phrase peut être une nourriture pour un moment, un encouragement, un avertissement pour un moment. On peut se les passer dans l'ordre ou dans le désordre, les prendre en commençant au début, en commençant par la fin. On a là des jalons qui nous aident à marcher dans ce chemin de service du Seigneur en l'attendant. Verset 23, « Or le Dieu de paix lui-même vous sanctifie entièrement et que votre esprit et votre âme et votre corps tout entier soient conservés sans reproche en la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelle est fidèle, qui aussi le fera. » La perspective est placée, pour terminer cet épître, sur « sans reproche en la venue de notre Seigneur Jésus ». Et en même temps que cette venue, « celui qui vous appelle est fidèle, qui aussi le fera », on a la ressource. On peut reprendre ce verset 24, et reprendre l'épître à partir du début et la relire en ayant ce verset 24 en mémoire. « Celui qui vous appelle est fidèle, qui aussi le fera. Il vous gardera sans reproche en sa venue. Il vous sanctifiera, il vous gardera en toutes choses, il vous donnera toute ressource. » Voilà, que le Seigneur nous aide à cette marche qui est une espèce de course de fond où nous ne savons pas derrière quel tournant le but est là. Et nous avons à tenir ferme jusqu'au bout, et nous avons les ressources de la grâce de Dieu, le Seigneur lui-même qui nous garde et qui nous conduit et qui donne tout ce qu'il faut pour tenir ferme jusqu'à ce moment-là.